Et si on ouvrait la parole de Dieu, est-ce que vous avez vos Bibles, B-I-B-L-E ? Je ne vous demande pas de me les montrer. Quoique, montrez-moi vos Bibles. En tout cas, en introduction, je dirais, je me rends compte que notre marche avec Dieu, elle est rythmée. Elle est rythmée par beaucoup de choses, mais elle est rythmée entre autres par des va-et-vient. Des va-et-vient que j'ai d'ailleurs appelés va-et-vient de la vie chrétienne. Quand j'ai donné les versets aux frères là-bas, au vidéoprojecteur, ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Nous allons le voir ensemble, ce sont comme des allers-retours indispensables. Des allers-retours nécessaires dans notre marche et notre vie chrétienne. Et je voudrais juste ce matin, j'espère donc les citer entièrement, j'aimerais vous partager trois de ces va-et-vient spirituels. Trois va-et-vient que Jésus lui-même a prononcé de sa bouche. Alors est-ce que vous voulez les découvrir ? Alors on va commencer. Le premier va-et-vient qui est indispensable, et je le précise, pour suivre le Seigneur, eh bien, on peut l'illustrer par l'attitude de ce jeune homme riche, qui un jour est venu vers le Seigneur Jésus avec une question plus profonde de son cœur. Je pense que nous avons tous lu un jour cette histoire. Et avec une grande révérence, il vient devant le Seigneur Jésus, il se jette littéralement à ses pieds et lui pose cette question : que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Autrement dit, que dois-je faire pour être sauvé ? Ou encore, que dois-je faire pour accéder au paradis après ma mort ? C'était ni plus ni moins ce qu'il posait au Seigneur Jésus. Et vous savez la réponse que Jésus a donnée à ce jeune homme ? Jésus a cité quelques-uns des commandements que Dieu avait laissés à son peuple. Tu ne déroberas point, tu ne tueras point. Et alors que Jésus énumérait ces quelques commandements, Je m'imagine ce jeune homme, je ne sais pas si vous le faites comme moi, quand on lit les histoires de la Bible, les témoignages vrais de la Bible, essayez de vous imaginer, et je vois ce jeune homme en train de sourire. Sa conscience est tranquille, son cœur est réjoui, parce qu'il va répondre au Seigneur Jésus, mais toutes ces choses, je me suis efforcé de pouvoir les mettre en pratique dès ma tendre jeunesse. Et c'est alors que le Seigneur Jésus va lui répondre une chose, en le regardant et en l'aimant. Et cette chose, il va le citer dans Marc chapitre 10 et le verset 21. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. » Et il va dire, « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Et au travers de cette parole du Seigneur Jésus, nous retrouvons justement notre expression « va » d'un côté et « viens ». Voilà le va-et-vient pour suivre le Seigneur, pour réellement s'engager avec Jésus. Jésus lui dit « va, vends tout ce que tu as, puis viens et suis-moi ». Je ne sais pas si nous chrétiens, nous réalisons toujours pleinement le privilège que nous avons de pouvoir suivre le Seigneur. Suivre Jésus, c'est entrer dans le chemin de la vie abondante. C'est entrer dans le chemin de la sainteté. Entrer dans le chemin de la lumière. C'est entrer dans le chemin d'une vie passionnante et extraordinaire. Elle est belle, la vie avec le Seigneur. Et sachons le dire aux personnes que nous pouvons rencontrer, surtout ceux qui sont découragés. Hier, quand on a fait la sortie, il y avait un jeune qui venait pour la première fois parmi nous. Et je ne vais pas vous le dire, mais même des ados connaissent déjà des moments très difficiles et connaissent déjà des moments douloureux. Et je crois que quelque part, Dieu nous l'a envoyé. Que Dieu le bénisse, ce jeune homme. Je n'en dirai pas plus. Mais suivre Jésus, c'est goûter dès à présent la vraie joie, la véritable joie. Goûter la vraie paix. Goûter ce pardon que seul Dieu donne. C'est goûter l'amour de Jésus. Suivre Jésus, c'est prendre le chemin du ciel. Là où se trouvent déjà nos frères et nos sœurs qui nous ont quittés et qui sont morts dans le Seigneur. Et là, je fais encore un petit clin d'œil à notre sœur Annie Lormier. Elle nous a devancés. Mais en suivant Jésus, nous allons, alléluia, la rejoindre. Mais comme nous l'avons lu, pour suivre Jésus, il faut avant tout que ce dernier ait la première place dans nos vies. Et là, j'aurais aimé entendre un amen. Et pour le jeune homme riche, ce n'était pas le cas. Lui qui, paradoxalement, depuis sa tendre jeunesse, a accompli certains commandements, je crois qu'il avait omis de pouvoir pratiquer et d'observer le premier et le plus grand des commandements. C'est quoi le premier et le plus grand des commandements ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Peut-être l'avait-il oublié, mais le Seigneur, finalement, eh bien, le lui a rappelé, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu jaloux. D'ailleurs, le premier commandement du décalogue que Dieu lui-même a cité du haut de la montagne de Sinaï, c'est « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face ». Et ce jeune homme avait besoin de comprendre ces choses. Il avait besoin de mettre en pratique ce premier commandement en abandonnant sa cupidité. Cet homme était attaché, ce jeune homme riche, était attaché eh bien, à ses richesses plus qu'à Dieu. Peut-être avait-il gagné ses richesses d'une manière droite et juste. Il l'a gagné avec la sueur de son front. Le problème, c'était pas tant qu'il soit riche. Quel était son problème ? C'est qu'il avait un attachement, un amour pour eh bien, ses richesses, plus que l'attachement et l'amour qu'il devait avoir pour Dieu. Dieu désire la première place dans nos vies. Alors une première question s'impose à nous ce matin. Qu'est-ce qui, dans ton cœur, je me permets de te tutoyer, arrive encore aujourd'hui à supplanter le Seigneur ? Qu'est-ce qui, dans ton cœur, prend la première place dans ta vie ? Qu'est-ce qui, dans ta vie, t'empêche de pleinement t'engager dans les pas du Seigneur Jésus ? C'est important de répondre à cette question. Parce qu'elle peut eh bien, nous empêcher de venir à Christ. Va, vends tout ce que tu as. Va, détourne-toi de ces choses, de ce bas monde. Et puis viens et suis-moi. Si tu ne quittes pas ces choses, si tu ne te sépares pas de ces choses, tu ne pourras pas suivre correctement le Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui suivent le Seigneur de loin. Il y en a qui suivent le Seigneur par Internet. Il y a toutes sortes de manières de suivre le Seigneur. Mais nous voudrions suivre le Seigneur si près de lui, à ses côtés, dans ses pas, et marcher fidèlement en conformité, en harmonie avec, alléluia, sa parole. Un jour, quelqu'un m'a dit, une personne à qui je l'encourageais à pouvoir abandonner son péché, parce que cette personne aimait à bien pratiquer la fornication, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Et je lui ai dit, pour suivre le Seigneur, il faut que tu abandonnes ces choses. Et je pense que cette réponse va me marquer toute ma vie, parce que j'en étais horrifié. Il m'a dit, quoi ? Abandonner ce péché ? Jamais ! Et il y a des gens qui ont déjà fait leur choix. Et d'ailleurs, ce jeune homme riche, a également fait son choix. Il n'a pas accepté le va-et-vient que le Seigneur lui proposait. Au contraire, la Bible nous dit que, eh bien, il alla affligé, le cœur affligé, tout triste, il s'en alla loin du Seigneur. Toi, mon ami, que vas-tu choisir ? Vas-tu te décider à suivre Jésus de tout ton cœur ? C'est pas suivre une religion, mais suivre le meilleur des maîtres. Moi, je suis content d'appartenir à Jésus. Et je crois que je ne suis pas le seul. Veux-tu connaître Jésus ? Veux-tu t'approcher de lui ? Veux-tu bénéficier de sa grâce, de sa paix ? Veux-tu avoir cette espérance ? Alléluia, que tous les chrétiens ont. Il te faut avant tout entendre ce que Dieu te dit et comprendre le va-et-vient spirituel, le va-et-vient de la vie chrétienne qui va te permettre de suivre comme il le faut et convenablement le Seigneur Jésus. Un deuxième va-et-vient que Jésus a également prononcé et qui est nécessaire pour offrir à Dieu notre offrande. Et nous le retrouvons dans Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24. Regardez, lisez avec moi. Et je pense que ça nous concerne par rapport au temps de louange que nous avons pu vivre ce matin. Jésus qui parle à nouveau et qui dit « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. » Verset 24. « Laisse là ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis... viens présenter ton offrande. » Est-ce que vous avez vu avec moi le va-et-vient du Seigneur ? Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Et si l'on réfléchit bien, il y a tellement de façons pour bien apporter notre offrande devant l'autel de Dieu. Comme par exemple ce matin, au travers des chants, des prières qui se sont élevées devant Dieu, ou même qui se sont élevées dans notre cœur, nous avons apporté des sacrifices qui plaisent à Dieu. Comme ma sœur le disait tout à l'heure, eh bien, on apporte un parfum, un doux parfum, alléluia, au cœur du Seigneur, et qui plaît au Seigneur. C'est important de pouvoir louer le Seigneur. Il y en a, ils pensent que c'est une option. Non. Et puissent les murs de cette église vibrer. Et qu'au loin, même le maire soit réveillé par les chants des rachetés. Que Dieu soit béni. Et c'est important de considérer le don spirituel qu'on a entendu tout à l'heure. C'est vrai, là-haut, il y a beaucoup de louanges. Les anges, les archanges, les séraphins. Il y a une louange céleste qui enivre toute personne qui se trouverait en ces endroits, qui est adressée à notre Père céleste. Et nous devons, et nous sommes appelés à être l'écho de ce qui se passe dans le ciel. Et apporter le doux parfum. Alléluia de nos actions de grâce devant Dieu. Il y a aussi l'offrande de nos biens. Je suis toujours interpellé par ces mages. Certains disent qu'ils étaient trois. Je ne suis pas convaincu. Moi, ce que je sais, c'est qu'ils venaient d'Orient. Et pour moi, ils sont bien mystérieux, ces mages. Ils ont fait des centaines et des centaines de kilomètres pour venir devant le petit enfant Jésus. Et ils ont déposé devant lui de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est extraordinaire. Oui, par nos biens, on peut aussi, alléluia, apporter notre offrande. Mais il y a aussi l'offrande de notre temps. Tout le temps que nous pouvons passer dans différentes activités, dans le service de Dieu, tout cela, c'est ni plus ni moins des offrandes. Offrandes de notre temps pour Dieu. Et franchement, c'est un privilège de pouvoir servir Dieu. D'être à plein temps pour le Seigneur, c'est un privilège. C'est une grâce que je devrais davantage pouvoir réaliser. Et vous qui servez le Seigneur d'une manière ou d'une autre, c'est une grâce. Je voyais mes sœurs hier nettoyer donc le sol. C'est une grâce, frères et sœurs. Tout ça est comptabilisé là-haut dans le ciel. Il y a des comptables là-haut. Et tout est noté. C'est l'offrande de notre temps. Et même les petites minutes qu'on pourrait passer, que ce soit le matin ou le soir, dans la prière ou devant sa parole, c'est du temps que nous offrons au Seigneur. Et en plus, quand on regarde bien, pour qu'en retour nous puissions être bénis par lui. C'est extraordinaire. L'offrande de notre temps, l'offrande de nos vies, de nos corps, comme on l'a chanté au travers de différents cantiques. C'est clair, toutes les fois où nous apportons différentes offrandes devant Dieu, cela réjouit son cœur. Et on l'a entendu dans le don spirituel. Ça glorifie son nom. Dieu est honoré quand son peuple le loue. C'est tellement important. Pourtant, on revient à notre texte, Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24. Jésus va dire ces choses, « Si donc tu présentes ton offrande, mon fils, ma fille, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Jésus montre bien combien la réconciliation est prioritaire à tout sacrifice que nous pourrions faire. À toute offrande qu'on pourrait le présenter. Pourquoi ? Parce que la réconciliation est au cœur même de l'évangile que nous annonçons. La réconciliation est ce qui nous a permis d'être tout à nouveau connectés avec Dieu notre Père. Dieu, par son Fils Jésus, nous a réconciliés sur le bois infâme de la croix. À cause du sang précieux de Jésus qui a coulé et à cause de notre réponse favorable, le moment où nous sommes repentis, convertis à Dieu, nous sommes à l'instant même réconciliés avec Dieu et nous sommes devenus enfants de Dieu. Et il nous a demandé, Dieu notre Père céleste, en retour d'être des ambassadeurs, ambassadeurs de cette réconciliation dans le monde. C'est ce que d'ailleurs va rappeler l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 18 à 20. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il faut que tu dises à ton voisin, à ton frère ou à ta sœur, tu as reçu le ministère de la réconciliation. Dis-lui ce matin, je te regarde, tu as reçu le ministère de la réconciliation. Tu as reçu le ministère de la réconciliation. Francis, tu as reçu le ministère de la réconciliation. Hélène, tu as reçu le ministère de la Réconciliation. Claude, tu as reçu le ministère de la Réconciliation. Et on le comprend bien, ce ministère de la Réconciliation. Il faut bien sûr, avant toute chose, que nous puissions le vivre, déjà d'abord au sein de nos familles. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Auprès de notre conjoint, auprès de nos enfants, auprès de nos parents, auprès de nos amis, auprès de nos frères et sœurs dans la foi, auprès de notre prochain d'une manière générale, autant que cela dépende de nous, nous sommes appelés à pouvoir vivre cette réconciliation en étant en paix avec tous, en étant en harmonie avec tous. Et cela peut-être peut nécessiter quelquefois d'exercer le pardon. Moi je le dis, certains ne sont pas heureux dans leur vie chrétienne. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils gardent au plus profond de leur cœur des prisonniers qui ont besoin d'être libérés. Des gens qu'on a enfermés, ah bien parce qu'on a gardé rancune, parce qu'on est encore dans l'amertume et autres. Alors il est important ce matin aussi de s'examiner et entendre ce deuxième va-et-vient de la part du Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui est encore prisonnier dans notre cœur, à cause peut-être de notre rancœur ou peut-être même de nos blessures ? Prenons aujourd'hui même la décision de le libérer. C'est bien d'avoir une conscience pure, une conscience qui est libre, une conscience dans laquelle on n'a pas enfermé quelqu'un. Et je le dis toujours avec fierté, je peux vous regarder chacun d'entre vous sans aucune crainte, sans aucun malaise, parce que je suis en paix avec tous. Et c'est important de l'être. Et dans ce défi que nous ne retrouvons pas dans le monde, dans ce défi, Dieu est prêt à pouvoir nous assister, nous aider. Alors nous pourrons, en retour le cœur léger, venir présenter notre offrande devant notre Seigneur. Amen. Allez, un petit dernier, un autre va-et-vient, qui est peut-être un peu similaire au précédent, mais qui va nous permettre cette fois-ci de recevoir de Dieu. Le deuxième va-et-vient était était nécessaire pour offrir à Dieu. Maintenant, ce troisième et dernier va-et-vient, il est nécessaire pour recevoir de Dieu. Et c'est Jésus qui va s'adresser à la femme samaritaine de la manière suivante, Jean chapitre 4, versets 13 et 16, on le lit ensemble. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. On retrouve encore notre va et viens. Et ce que j'apprécie, entre autres, chez notre Père Céleste, c'est que c'est un Dieu d'ordre et de bienséance. Vous savez, Dieu ne mettra jamais la charrue avant les buts avec nous. Dans le monde, on peut passer sous silence certaines choses ou avoir des dessous de table. Avec Dieu, il n'y a pas de dessous de table. Dieu ne met pas la charrue avant les buts. Et c'est ce que Jésus a voulu rappeler à cette femme samaritaine qui était assoiffée pour sa propre vie de renouveau. Elle voulait un changement, elle dit « Mais Seigneur, donne-moi de cette eau. » Et Jésus va lui dire tout simplement « Va, appelle ton mari. » Vous voyez le tact du Seigneur ?« Va, appelle ton mari et viens. » Là aussi, j'aurais aimé voir le visage de cette femme. Jésus avait mis le doigt sur un coin sombre de la vie de cette femme et qui devait être bien sûr mis en lumière. Car le péché est l'un des obstacles qui nous empêche de recevoir de la part de Dieu. Pas chercher. C'est vrai, il peut avoir la foi, mais la foi, il peut avoir le doute et l'incrédulité, mais le doute et l'incrédulité sont ni plus ni moins des péchés. Si on les entretient, si on les laisse venir nous gagner. Le premier obstacle qui nous empêche de recevoir la part de Dieu, c'est le péché qui peut encore se trouver logé en nous. Et que Dieu nous garde de penser que nous sommes enfin arrivés à venir à bout de ce péché. J'ai l'impression que tant que nous serons ici-bas, nous aurons à combattre bien contre ce péché et le vieil homme qui bien souvent revient à la charge. La Bible dit, ne le cherchez pas, Ésaïe chapitre 59 versets 1 et 2, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Une autre version dit « Et l'empêche de vous exaucer. » C'est le même mot, « shama ». C'est tellement important à pouvoir considérer. Jésus ne tourne pas autour du pot avec nous, parce que de par son omniscience, il sait aller droit au but. Et parce qu'il veut nous bénir et nous faire grâce, il nous montre dans nos vies ce qui mérite d'être ôté, ce qui mérite d'être extirpé, afin qu'en retour, eh bien, nous puissions être bénis par lui. Et quand il nous montre peut-être le mal qui pourrait se cacher au plus profond de notre cœur, il nous donne aussi la solution. Un exemple que je voulais aussi vous donner, c'est celui de Job. Job et ses trois amis, vous connaissez son histoire, bien sûr, qui ne connaît pas l'histoire de Job, mais juste quelques versets à lire. Job, chapitre 42, versets 7 à 10, il nous est dit la chose suivante. « Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. » « Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur. » Eliphaz de Théman, Bildad de Shuach et Tsophar de Naama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Avez-vous compris ce que je voudrais vous dire au travers surtout même de ce verset 10 ? Vous connaissez l'histoire de Job qui a connu une épreuve sans pareil. Il a tout perdu presque littéralement le même jour. Et est venu auprès de lui trois de ses amis qui ont été plutôt des médecins de néant plutôt qu'autre chose. Ils ont été maladroits pour essayer de raisonner ou peut-être même d'encourager, de fortifier ou peut-être même d'interpeller Job au travers de son épreuve. Et il y a eu certainement des blessures eh bien, que Job a pu recevoir de la part eh bien, de ses propres amis. On voit à un moment donné qu'il y a eu un litige et que Dieu voulait maintenant régler. Et il va demander, eh bien, Dieu lui-même va demander à ses trois amis de Job de pouvoir aller vers Job. Et Job lui-même priera pour eux. Et c'est ce que, eh bien, ils ont fait. Et Job a prié pour eux. Quand Job eut prié pour ses amis, Dieu, l'Éternel, le rétablit dans son premier état. Quand Job, finalement, a décidé, eh bien, de montrer à tous que, finalement, il n'avait pas de rancune, ni d'amertume contre ses trois amis qui, bien souvent, inconsciemment peut-être, on va le dire, eh bien, l'ont piqué, ont essayé même de lui faire croire que c'est parce qu'il avait péché qu'il se trouvait dans cette situation. C'est à ce moment-là, alors que Job a commencé à prier pour eux, que Dieu l'a pleinement rétabli. Au moment où Job régla le litige qu'il a eu avec ses trois amis, Job fut rétabli. Et je crois que quand tu vas te mettre à obéir à ce que Dieu te demande, Dieu lui-même va te bénir. Vous avez vu comment eh bien, Dieu l'a béni, même doublement. Parce que Job a accepté de pouvoir faire accomplir ce que Dieu lui demandait. Et il y a peut-être une chose particulière que Dieu te demande de pouvoir faire. Et jusqu'à maintenant, tu ne l'as pas fait pour plusieurs raisons qui, à tes yeux, peuvent être illégitimes. Mais Dieu te demande, au-delà de tes raisonnements ou de ta sagesse, de pouvoir t'appuyer et compter ni plus ni moins sur ton Dieu. Agis, va. Alors Jésus ne te dira pas, va et peut-être chercher ton mari si tu n'en as pas, mais il va peut-être te dire, va chercher ton péché. Va chercher peut-être ce qui eh bien, est en litige entre toi et Dieu. Et puis viens vers moi parce que je suis le Dieu d'amour. Viens vers moi parce que je suis, alléluia, un sauveur, un maître compatissant. Toutes les fois où nous pouvons nous approcher du Seigneur humblement, de tout notre cœur, avec un cœur repentant, Dieu nous accepte, frères et sœurs. Et plaise à Dieu que ce matin, eh bien, quelqu'un puisse s'approcher du Seigneur et dire, mais Seigneur, je te dépose mes péchés. Comme on l'a entendu au travers du don spirituel, venir à Dieu tel que nous sommes. Rien cacher, parce qu'on ne peut pas cacher quoi que ce soit à Dieu. Et dire, Seigneur, purifie mon cœur, transforme-moi, lave-moi. Je veux terminer en conclusion et dire qu'il y a aussi un quatrième, dernier va-et-vient que je voudrais citer pour vous. Ce va-et-vient, il concerne exclusivement notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez qu'il était dans son ciel de gloire. Et parce qu'il a voulu, eh bien, par amour, obéir à l'ordre de son Père, il est allé. Il est allé. Et où il est allé? Il est venu, eh bien, parmi nous. Il est venu sur la terre des hommes. Il a marché parmi les hommes. Mais mieux encore, alléluia, il est venu sur ce bois infâme pour mourir pour chacun d'entre nous. Il a fait ce va-et-vient entre le ciel et la terre. Et après qu'il ait accompli ce que nul autre n'aurait pu faire, ce Seigneur Jésus, alléluia, il est mort et il est ressuscité le troisième jour. Et il devait effectuer un autre va-et-vient. Il devait repartir vers son Père, mais il a donné, eh bien, cette promesse à ses disciples qu'on peut lire ensemble. Ce sera le dernier verset, Jean chapitre 14, le verset 1 et 3, que notre frère, d'ailleurs, Richard Garcia, nous a rappelé aussi vendredi soir. Ce qu'est l'espérance des chrétiens. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais, du verbe aller. Jésus va nous préparer une place. Et lorsque, eh bien, il sera parti et préparé cette place pour nous dans le ciel, alléluia de gloire, il a dit qu'il reviendra. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et je crois que l'Église dit, Satan se va et vient, qui est imminent. Jésus est allé, mais il revient. Oh, il s'arrêtera sous les nuées. L'Église littéralement décollera. Ce sera surnaturel. Les journaux, ne vous inquiétez pas, feront l'annonce. Ils interpréteront, eh bien, cette disparition comme ils le voudront. Mais ce sera l'accomplissement même de la parole de Dieu. Ce ne sera pas le dernier va-et-vient, parce qu'il y en aura un autre, alors que nous monterons avec le Seigneur dans, alléluia, dans les airs, pour être éternellement avec lui, pour jamais être séparés de lui. La Bible nous dit qu'il y aura un autre va-et-vient lorsqu'on redescendra tout à nouveau avec le Seigneur pour vivre le millénium avec lui. Et ce sera le dernier va-et-vient. Après, nous serons éternellement dans sa présence. Je veux être présent pour ce jour-là. Et dans cette marche-là, eh bien, c'est chacun pour sa part. La Bible dit que deux qui seront dans un même lit, un sera pris, l'autre laissé. De deux qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Jésus nous a déjà avertis d'avance. Et on a besoin d'être sérieux, on a besoin de se replacer devant Dieu. La Bible dit examiner toutes choses et bien sûr retenir ce qui est bon. Mais il dit aussi examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Nous voulons considérer les va-et-vient du Seigneur. C'est pour ça que devant le Seigneur, toute bouche sera fermée. Parce que Dieu nous a avertis, il nous a tout dit d'avance par la bouche de son Saint-Fils. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Que Dieu nous aide à être fin prêt, parce qu'il est à la porte et revient bientôt. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur, tu es là, tu es Dieu. Et tu nous parles par ta parole. Nous voudrions être attentifs à ce que tu veux nous dire. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous n'y prenons point garde. Nous nous habituons à ta parole. Pourtant encore, tu tends la main à un homme, une femme ce matin. Et tu l'invites à sortir de toute situation critique qui pourrait l'empêcher d'être fin prêt lorsque tu reviendras. Tu l'invites ce matin à pouvoir considérer tous ces va-et-vient que tu nous as rappelés. Nous voudrions te suivre et être pleinement engagés avec toi. Nous voudrions, Seigneur, avant de t'apporter quoi que ce soit comme offrande, être au clair sur le ministère de réconciliation que tu nous as confié. Nous voudrions, pour recevoir de toi, savoir venir vers toi tel que nous sommes, savoir aller chercher le péché là où il est caché dans notre cœur, et venir devant ce Dieu plein de pardon, plein de miséricorde. Passe dans les rangs, je te prie, par le Saint-Esprit. Viens te manifester ce matin. Et alors qu'on a les têtes baissées, les yeux fermés, ce n'était pas prévu, mais j'ai à cœur de le faire. Peut-être es-tu reconnu au travers de ce que j'ai partagé ce matin. Et Dieu te propose ce matin de pouvoir répondre favorablement à sa parole. Et si tu as besoin que le Seigneur vienne te secourir dans ta marche, dans ta vie chrétienne avec lui. Si tu reconnais que dans ta vie chrétienne, il y a encore ce péché qui revient en redondance, dont tu as besoin de te séparer, lève-toi de ta place. Dieu va t'aider. Dieu va te faire grâce. Si tu reconnais aujourd'hui même que tu as besoin encore à nouveau de libérer quelqu'un qui se trouverait emprisonné dans ton cœur, lève-toi à ta place. Dieu ne t'accuse pas, il veut juste t'aider à vivre la puissance du pardon. Et si ce matin tu veux t'engager, peut-être toi qui viendrais pour là ou les premières fois, si tu voulais donner ta vie à Jésus, si tu voulais t'engager et dire « Seigneur Jésus, je veux te suivre, mais je veux le faire d'une manière parfaite, je veux le faire entièrement avec tout mon être, te suivre convenablement », lève-toi à ta place. Peut-être viens-tu pour là ou les premières fois. Si tu veux t'engager avec Jésus, lève-toi. Jésus, il t'accueille, il te connaît, il sait pourquoi encore tu es venu, il a conduit lui-même tes pas et tu as besoin d'être sauvé. Et si c'est le cas, lève-toi à ta place. Et dans le secret de ton cœur, dis, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Seigneur, tu vois ces personnes qui se sont levées et tu connais les raisons, on n'a pas besoin de savoir, Seigneur, ces raisons. Et même à distance, tu es capable de les toucher. Tu es capable de leur apporter ce dont ils ont besoin pour vivre une vie chrétienne victorieuse, pour ne pas être ces pseudo-chrétiens, mais de véritables enfants de Dieu que tu reconnais depuis ton trône. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, de faire grâce pour ceux, celles qui tiennent rancune, rancœur encore à des personnes qui pourraient, mon Dieu, leur avoir blessé, Seigneur, mon Dieu, leur personne. Donne-leur, Seigneur, mon Dieu, à trouver le secours et peut-être la solution dans le pardon. Donne-leur à enfin tourner une page afin qu'ils puissent vivre la vraie joie, la vraie paix que tu donnes à ceux et celles qui t'obéissent. Je te prie encore, Seigneur Père, mon Dieu, que ceux qui désirent apporter des offrandes et qui ont besoin avant tout de vivre la réconciliation. Oui, pour ces personnes aussi, Seigneur Père éternel, qui veulent recevoir de toi, mais qui reconnaissent dans leur cœur, Seigneur, mon Dieu, encore des péchés qui viennent en redondance. Mais je veux te prier aussi pour ceux et celles qui se sont levés pour, Seigneur, se livrer à toi, pour te demander humblement pardon, pour décider aujourd'hui même de pouvoir te suivre. Seigneur, accepte, mon Dieu, leur offrande. Accepte leur cœur. Purifie leur cœur. Sanctifie-les, Seigneur. Fais-leur grâce au nom de Jésus. Relève-les, donne-leur à être de nouvelles créatures. Parce que tu le dis, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et que nous ayons la joie, Seigneur, plus tard. Seigneur, mon Dieu, de les voir passer par les eaux du baptême au nom de Jésus. Parce que, Seigneur, tu veux encore sauver encore aujourd'hui. Oh, à toi toute la gloire. Sois béni et sois glorifié. Ah, merci, Seigneur Jésus, parce que tu es intervenu au nom de Jésus-Christ pour la seule gloire de ton nom. Amen et amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia.